Le débat du jour. François Bernard.
Bonsoir à tous, merci de nous accueillir à l'écoute du débat sur RFI. Alors que débute à Genève un festival international des droits de l'homme, on constate que partout dans le monde, la situation de ces droits est préoccupante. Il est peu de pays qui échappent à ce constat et la France n'est pas épargnée. Pourtant, ceux qui luttent pour voir respecter les droits humains sont nombreux, ils font clairement entendre leur voix. Le non-respect des droits de l'homme est dénoncé, combattu, mais ce combat-là est immense. Parvient-il finalement à prévaloir ou reste-t-il une quête impossible? Les droits de l'homme dans le monde sont-ils en progrès ou en régression? On va en parler avec nos deux invités de ce vendredi 9 mars 2018. Je vous les présente tout de suite. Patrick Baudouin est président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH. Bonsoir à vous, Patrick Baudouin.
Bonsoir.
Et puis Jean Matringe est professeur des universités à l'université Panthéon-Sorbonne. Bonsoir Jean Matringe.
Bonsoir.
Alors, je commence avec vous, tiens, Patrick Baudouin. Est-ce que l'émergence du terrorisme, c'est une des premières questions que je me suis posée, a dégradé la situation des droits de l'homme dans le monde?
Il est certain que l'émergence du terrorisme a, comment dire, a compliqué en tout cas l'avancée qui était peut-être en cours à compter des années 90, après la chute du mur de Berlin, l'avancée en matière de droits de l'homme. Et il est vrai que depuis le 11 septembre 2001, on a assisté à des atteintes aux libertés presque inimaginables auparavant, avec toute une série de textes toujours répressifs, textes adoptés pas seulement dans des États autoritaires, comme on y est habitué, mais dans des démocraties occidentales dont les droits de l'homme sont un des fondements. Et on a vu aux États-Unis le Patriot Act, on a vu en Grande-Bretagne, on a vu des détentions parfaitement arbitraires, on a même vu Guantanamo, hein, c'est qui en est la caricature. Et malheureusement, depuis 2001, le mouvement se poursuit. On l'a vu en France récemment avec l'état d'urgence, avec des mesures qui sont absurdes. Le débat, par exemple, sur la déchéance de nationalité, ça s'inscrivait dans ce mouvement. Donc, on a l'impression que, au nom de la lutte contre le terrorisme, on est à peu près à tout et on se dit, face à ce fléau abominable, il faut du sécuritaire et le sécuritaire s'oppose certaines notions de respect des droits et libertés. Et ce qui est grave, c'est que faut pas regarder ça sous le prisme seulement de notre pays ou de nos démocraties, mais c'est un encouragement qui est donné à des régimes parfaitement autoritaires. On peut penser à l'Égypte, on peut même penser à la Syrie aujourd'hui, où on voit très bien que les États, pourtant qui devraient promouvoir les droits de l'homme et la justice, hésitent à attaquer de front Assad parce que ils se disent au nom de la lutte contre le terrorisme, alors que le pire des terroristes aujourd'hui, c'est Assad lui-même. Bon, prenons l'Égypte aussi. Prenons même un pays comme la Birmanie, où on voit le sort qui est réservé aujourd'hui aux Rohingyas. Et partout, quand on réprime, on s'abrite derrière cette référence à la lutte contre le terrorisme. Et ça fait passer une pilule énorme à avaler. Et ça, c'est effectivement tout à fait regrettable.
Est-ce qu'on peut efficacement, et je vous pose la question, Jean Matringe, est-ce qu'on peut efficacement lutter contre le terrorisme et respecter scrupuleusement les droits, le droit?
Je crois que oui. Le terrorisme, on a des techniques déjà policières, judiciaires qui étaient satisfaisantes. Enfin, on a déjà eu des périodes d'attentats, hein, notamment en France, où on n'a pas eu recours à cette panoplie de mesures exceptionnelles qu'il y a aujourd'hui. Mais je crois que, ce qui me frappe le plus, indépendamment de, outre ce qu'a dit Patrick Baudouin, c'est cette sorte d'acceptation par la population, voire de demande finalement, de ces mesures, quand on voit la facilité avec laquelle l'état d'urgence en France a été prolongé plusieurs fois, la facilité avec laquelle son introduction dans le droit commun s'est faite, on a l'impression que les populations, nos populations qui étaient aux aguets, ont accepté ce revirement. On leur a dit que les droits étaient incompatibles avec la sécurité, qu'il fallait faire un choix et que ce choix devait être la sécurité après le 11 septembre. Et je crois que les gens ont intériorisé cela, ils sont prêts, ils renoncent à leurs droits au nom d'un danger contre lequel on pourrait très bien lutter avec le droit qui était en vigueur jusqu'à il y a peu d'années.
Alors, on parle terrorisme, et parmi les nouveaux éléments qui marquent l'histoire contemporaine, il y a cet afflux de réfugiés. Je sais que vous vous y intéressez particulièrement, Jean Matringe. en direction de l'Europe particulièrement. Les réfugiés, c'est une population dont les droits sont bafoués.
Oui, oui, incontestablement. Alors bon, le terme réfugié est un terme maintenant un peu fourre-tout. Hein. On appelle réfugié tout le monde. Bien sûr, ne serait-ce que leur droit à demander le statut de réfugié. Ne serait-ce que ce droit, on leur refuse en les interceptant en haute mer ou en les laissant mourir en mer. La technique des hotspots qui consiste à les bloquer dans les îles grecques ou en Italie pour filtrer, pour soi-disant ensuite les enregistrer, leur donner accès à une procédure d'asile qui est quasiment inexistante en Grèce ou en Italie. Et ensuite, il devait y avoir un système un peu de solidarité avec les relocalisations. On s'aperçoit que ça ne marche pas. Un certain nombre de pays de l'Est refusent. Et la France a mis du temps à accepter. Et alors, le paradoxe, c'est que finalement, ce sont les réfugiés qui veulent plus tellement venir en France. Mais ce sont, après, tous les droits humains, effectivement, dont ils ne bénéficient pas. Le droit au logement, liberté d'expression... C'est incontestable.
Patrick Baudouin, une nouvelle ligne de front, cette communauté, on va dire, des réfugiés dans le monde, enfin, de par l'afflux massif qu'ils représentent dans les pays.
Oui, bien sûr. Bon, outre l'aspect, je dirais, moral, humain, il faut accueillir ces gens-là quand ils ont besoin d'être accueillis. Lorsqu'ils fuient leur pays, ils ne le font pas par plaisir. Donc il y a cet aspect. Mais au-delà de ça, cette politique de la forteresse qu'on essaye d'instaurer en disant on va essayer de se préserver, mais c'est complètement contre-productif parce que de toute façon, c'est le début du processus. Et c'est sûr que de par l'évolution climatique, de par toute une série... Moi, je reviens du Mali, là où j'étais il y a quelques jours. On voit très très bien qu'il y aura ce besoin de voir des gens aller dans d'autres pays. Et il faut essayer de canaliser ça et non pas de se barricader. C'est toujours une réponse, que ce soit d'ailleurs, c'est très paradoxe, enfin non, c'est très cohérent à la limite, mais que ce soit pour les réfugiés ou que ce soit pour le terrorisme, la réponse c'est sécuritaire. On va prendre des lois de plus en plus répressives et en s'imaginant qu'on va résoudre les problèmes. Qu'est-ce qu'on voit ? Tout l'inverse. Parce que le terrorisme, entre parenthèses, on est loin de l'éradiquer. Je crois même qu'on est en train de le favoriser. Bon, j'étais au Mali il n'y a pas longtemps, juste un petit exemple très concret. Il y a eu une bavure récente, il y en a, de l'armée malienne. Mm-hmm. Alors bien sûr, il y a du terrorisme, etc., des djihadistes, il faut les combattre, c'est pas le propos. Mais bavure de l'armée malienne, il y a quelques jours, et il se trouve que l'armée avait fait des prisonniers, était-ce des djihadistes, était-ce des civils dans le centre du pays, et les a exécutés. Bien. Et bien, j'ai vu le ministre de la Justice, j'ai vu le procureur, j'ai vu toute une série d'autorités de ce pays. Qu'est-ce que vous allez faire ? La réponse, elle est évasive, parce qu'ils ne vont rien faire. Et qu'est-ce qui se passe ? Les populations ont l'impression d'un deux poids, deux mesures, ont l'impression qu'on ne poursuit pas les exactions qui peuvent être commises par l'armée, et ça favorise les djihadistes qui se posent en protecteurs, ce qui est un paradoxe invraisemblable, mais c'est ainsi, en protecteurs des populations.
Alors, la liste... Oui, allez-y, Jean-Martin.
Peut-être dire une précision là, sur les termes afflux massif de réfugiés. Il faut vraiment relativiser. Quand on a eu le million de Syriens qui sont venus, c'est 0,02% de la population européenne. Oui. Donc c'est vraiment une goutte d'eau qui pouvait très bien être gérée. On savait que ça allait venir en plus. Donc c'était prévisible et c'était gérable. Donc ce sont les politiques qui ont fait en sorte que ce ne soit pas gérable et puis même la mise en scène où on voyait des afflux effectivement de personnes, mais parce que effectivement, dans un petit lieu, si vous mettez beaucoup de monde, on a l'impression d'une invasion. Donc il faut vraiment relativiser cela, et la plupart des réfugiés vont dans le pays d'à côté ou essentiellement d'ailleurs restent dans leur pays. Ce sont les déplacés internes, et il y en a infiniment plus que des réfugiés ou des migrants internationaux.
C'est vrai, c'est une précision importante à faire. La liste des droits humains est longue, elle est aussi très diverse, de la pratique des exactions comme vous l'évoquiez tout à l'heure à propos du Mali, de la torture, la privation d'expression. Il y a des niveaux de gravité différents quand même. Est-ce qu'il faut hiérarchiser le manquement au respect des droits humains et s'intéresser en priorité à ceux qui sont les plus graves, Jean Matringe?
Non, surtout pas. Et je crois que c'est pourtant ce que l'on a fait, et que c'est une erreur d'ailleurs du mouvement des droits humains. on a jusque-là essentiellement insisté sur ce qu'on appelle les droits civils et politiques, c'est-à-dire en fait les libertés individuelles face à l'État. Et je crois qu'on a très largement négligé les droits économiques, sociaux et culturels, alors qu'ils sont fondamentaux. Leur violation est souvent beaucoup plus invisible, insidieuse, et pourtant... Ces deux catégories de droits sont interdépendantes. On a toujours dit, il faut d'abord pouvoir voter, s'exprimer, et ensuite pouvoir jouir des droits économiques et sociaux. Le problème est qu'en fait, la réciproque est parfaitement vraie aussi. C'est si je peux manger, si je peux travailler, si j'ai un logement, que je vais pouvoir m'exprimer ou prendre part à la vie politique. Et donc, je crois qu'il faut justement inverser cette hiérarchie presque naturelle, mais qui vient de la pensée occidentale, hein. C'est nous qui avons inventé les droits de l'homme tels qu'ils existent actuellement en droit international. C'est une vision libérale, et je crois qu'il faut revenir sur cette vision libérale et rehausser tous ces autres droits, jusque-là subalternes, mais qui sont fondamentaux.
Alors, on a assisté à des manifestations, parfois massives cette fois, je pense aux États-Unis, de femmes. Hein, on entend une parole féminine qui s'exprime davantage aujourd'hui. Est-ce que est en train de s'imposer un droit de la femme spécifique, Patrick Baudouin ?
Non, je crois que le mouvement actuel est important, intéressant et je pense très positif dans la mesure où la parole de la femme se libère. Ça, c'est spectaculaire, ça se passe. Mais si on raisonne à l'échelle mondiale, cette parole, elle se libère dans certains pays. Vous venez de citer les États-Unis, on peut penser à la France, on peut passer quand même aujourd'hui aux démocraties, disons, occidentales. Dans d'autres pays, avec beaucoup, beaucoup de femmes en nombre, on peut penser à l'Asie, on peut penser à l'Afrique, on peut penser au Moyen-Orient, la situation de la femme reste extrêmement préoccupante. Mmh. Et je suis pas convaincu que les progrès actuels soient considérables. Alors, heureusement, il y a des femmes, si on prend la Tunisie, par exemple, c'est un exemple spectaculaire, mais c'est pas nouveau. La Tunisie a quand même un passé où, dans les pays du monde arabe, c'est un des plus évolués pour les droits des femmes. Donc là, on voit des avancées. Mais dans beaucoup d'autres pays, c'est pas parce qu'on donne le droit de conduire aux femmes d'Arabie Saoudite qu'on peut dire quand même qu'on a libéré les femmes.
Un avis sur cette question particulière, très contemporaine, on va dire.
Oui, alors, avec la crainte peut-être, parce qu'on a déjà eu des revendications qui ont fait beaucoup de bruit, en espérant qu'il y ait des lendemains, c'est-à-dire qu'on n'ait pas un phénomène effectivement de réaction par rapport à des scandales particuliers, et qu'ensuite qu'on laisse parler les femmes pour finalement continuer à faire comme avant. En revanche, particulariser les groupes, je crois que c'est dangereux aussi, c'est-à-dire que... des droits des femmes, elles devraient avoir les droits humains, c'est-à-dire que les droits sont censés les bénéficier à tous, quels qu'ils soient. Donc le danger après de faire des catégories, les femmes, les migrants, les minorités, etc., le risque est de particulariser, et du coup la population, celle qui va vite vers le populisme, se nourrit ce genre de choses. Les droits de l'homme, finalement, c'est les droits des femmes ou des noirs ou des migrants, et moi qui suis le français lambda, mes droits, on s'en occupe pas, et je crois que ça peut être un travers, et je crois que c'est une des critiques qu'on fait aux droits de l'homme, et qu'il faut qu'ils réfléchissent à cela, et qu'ils aient une vision plus englobante. Il faut tenir compte des spécificités de certains groupes, mais peut-être pas trop avoir des discours différents pour chaque groupe de personnes qui pourraient être victimes de violations des droits de l'homme.
Très bien. Alors, parlons de la justice internationale, puisque vous êtes juriste. Est-ce que les tribunaux qui ont été installés fonctionnent de manière satisfaisante, selon vous ?
Il y a deux types de tribunaux. Le plus célèbre d'entre eux, c'est la Cour pénale internationale. Oui. Alors, ça n'est pas un tribunal des droits de l'homme. En fait, la Cour pénale internationale est censée poursuivre et juger des criminels internationaux, donc des individus. Alors qu'on a des cours de protection des droits de l'homme qui, elles, jugent les États. Alors la Cour pénale internationale, malheureusement, non, ne fonctionne pas bien. Elle n'a pas les moyens de fonctionner. Elle est prise en pleine turbulence politique, des turbulences qu'on pouvait prévoir, et qui sont peut-être quand même moins importantes qu'on ne le dit. Quand on dit l'Afrique est contre ces pays, c'est faux. Il y a quelques États africains, et la plupart de ces États africains, d'ailleurs, ne sont même pas partis au statut de la CPI. Donc voilà, une fronde de certains chefs d'État qui ont peur d'être les prochains sur la liste des mises en accusation. Les cours de protection des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme fonctionnaient très bien. La Cour interaméricaine des droits de l'homme est dans une très difficile position à l'égard des États. Elle est peut-être allée trop loin, elle a peut-être été trop protectrice et elle subit la colère des États et réduction de financement. La Cour européenne des droits de l'homme, on le voit aussi, subit beaucoup de pression de la part des gouvernements qui tolèrent de moins en moins d'être mis en cause. Le Royaume-Uni a été vraiment à la tête de la fronde. Enfin, quand vous voyez qu'aux dernières primaires pour les élections présidentielles en France, les trois plus sérieux prétendants pour le groupe des Républicains avaient agité la menace de quitter la Cour européenne des droits de l'homme. Mmh. Et il reste la Cour africaine qui, elle, est à peine installée et peine effectivement à fonctionner. En Asie, on n'a rien.
Alors, je vois votre avis, Patrick Baudouin, sur ce sujet particulier.
Oui, je voudrais juste revenir, parce qu'on n'a pas un temps illimité, mais sur la Cour pénale internationale. Parce que le verre, il est à moitié vide ou à moitié plein. Il faut quand même partir du fait qu'on avait pas de justice internationale, que c'était un vieux rêve et que ça ne peut pas du jour au lendemain devenir une juridiction parfaite, et elle ne l'est pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que là aussi, après les espoirs qu'elle a pu générer, aujourd'hui, on a l'impression de beaucoup de blocages, c'est incontestable. Et il ne faudrait pas que, au nom des impératifs politiques que vous évoquiez, parce que c'est sûr qu'il y a des interférences politiques considérables, cette Cour soit trop longtemps semi-paralysée, en tout cas n'obtienne pas de résultats suffisants. Il y a une attente considérable, beaucoup de, évidemment, de populations qui subissent des exactions très graves disent « mais on va recourir à la Cour pénale internationale », alors que dans certains cas, ce n'est même pas possible juridiquement, parce que c'est quand même limiter la possibilité de saisine de la Cour, mais je crois qu'il faut conserver là-dessus un certain optimisme sur cette Cour pénale internationale. Il y a des obstacles, il y en aura d'autres, mais il y a quand même toute une série de procédures qui ne visent plus seulement l'Afrique, et la plupart des États africains continuent de soutenir la Cour pénale internationale. Ils ont d'ailleurs été parmi les premiers à ratifier. Et on voit s'ouvrir des enquêtes sur d'autres continents, comme l'Amérique latine, comme l'Asie, des tentatives évidemment difficiles sur la Palestine. Mais je pense que on a là un instrument qui reste pour l'avenir potentiellement porteur d'espoir.
Alors, ça m'amène à la question suivante, qui sera la dernière. Je vous demanderai d'être court, même si elle est compliquée. C'est-à-dire, vous observez les droits de l'homme, et vous probablement aussi, vous êtes un petit peu plus jeune, Jean Maintringe, depuis, je ne sais pas, 40, 50 ans peut-être. Est-ce qu'ils sont mieux respectés aujourd'hui qu'hier ?
Alors pour essayer de faire court, bon, ce qu'on voit, c'est qu'on a un corps de texte qui est presque parfait. Bon, les textes, ils existent à l'échelle internationale, les conventions de toutes sortes, et même dans les États les plus autoritaires, on trouve des textes qui en eux-mêmes sont pas tellement contestables. La vérité, c'est est-ce que c'est appliqué ? Est-ce que ces textes sont appliqués ? C'est la pratique. Et sur ce plan, il y a une régression dans les années écoulées, notamment du fait de cette lutte contre le terrorisme qui rogne progressivement les libertés. Je voudrais juste, pour terminer, dire que pour autant, il ne faut pas perdre l'espoir. Le combat des défenseurs des droits de l'homme est de plus en plus difficile, parce que justement, dans ce climat ambiant, on essaye de les discréditer. Et le poids des opinions publiques dont on parlait, moi je dirais plutôt le poids de ceux qui gouvernent et qui répandent une parole qui incite les opinions publiques à dire, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, après tout, les libertés, les droits de l'homme, tout ça, c'est pas essentiel. Ce qu'on veut, nous, c'est être tranquille. Et les gouvernants s'en nourrissent parce que ça leur permet de maintenir leur pouvoir. Au nom de ce tout sécuritaire, on vient dire aux citoyens, on va vous protéger, fermer les yeux, boucher les oreilles, etc. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut que les défenseurs des droits de l'homme puissent agir, et je crois qu'il y a encore des marges, heureusement, de manœuvre. Mais il ne faut vraiment pas baisser les bras dans la période actuelle. C'est plus jamais d'actualité.
J'aurais aimé votre avis, Jean Maintringe, mais l'heure est très avancées, on va dire. Ça va pas être possible. On pourra pas en dire davantage aujourd'hui. Alors, je vous remercie, bien sûr, tous les deux. Jean Maintringe, professeur des universités. Vous êtes à Panthéon-Sorbonne. Et Patrick Baudouin, le président d'honneur de la FIDH, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Je remercie également Florence Ponce, qui a préparé cette émission, et Richard Rifonneau, qui la réalise en ce moment même. Je vous remercie, vous, de l'avoir suivi. Vous restez à l'écoute, bien évidemment, de Radio France Internationale. Un nouveau journal sur la radio mondiale dans quelques secondes à peine. Thank you.